Bonsoir. Alors, cela peut paraître bizarre d'utiliser le passage de Genèse pour prêcher un sermon deux jours après Noël. Pourtant, au milieu de la plus grande tragédie vécue par l'humanité, nous y trouvons la plus grande révélation d'espoir pour tous les hommes, car pour la première fois, il y a à travers ce récit dans Genèse, chapitre 3, le péché, le jugement et la mort, et le message de l'Évangile qui sauve, celui de l'agneau de Dieu. Et ce matin, écoutez, on va le diviser en deux parties. Première partie, on va regarder le péché qui est entré dans le monde, la solution que Dieu a apportée pour nous permettre de rétablir notre communion avec lui, mais surtout de nous rappeler tout au long de l'année 2016 qu'on est des chrétiens victorieux. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Amen. Je vais vous donner la dernière phrase de mon message ce matin. Frères et sœurs, les premiers chrétiens n'étaient pas enclins au défaitisme. On va peut-être arrêter le message là, quoi. Ils parlaient davantage de victoire, plus que vainqueur dans la parole. Toujours triompher à celui qui vaincra, nous dit dans la parole. Victoire, triomphe, vainqueur. Les chrétiens des premiers siècles n'étaient pas des chrétiens déprimés. C'étaient des chrétiens qui n'étaient pas défaitistes. Ils étaient plus que vainqueurs par celui qui les fortifiait. En toute chose, je suis plus que vainqueur par celui qui me fortifie. Amen. Les problèmes, que vous soyez dans le Seigneur, que vous ne soyez pas dans le Seigneur, les problèmes dans le monde, vous allez en avoir. Que vous soyez dans le Seigneur, que vous ne soyez pas dans le Seigneur, vous allez tomber malade. Vous êtes dans un corps toujours mortel. Oui. Alors, ça ne nous donne rien d'être abattu si on est malade. Si vous étiez dans le monde, vous seriez peut-être encore un petit peu plus abattu. Mais ça fait partie de la vie. Mais si on garde nos yeux fixés sur l'espérance du retour de Jésus-Christ, peut-être dans notre génération, eh bien, on n'aura pas cet esprit défaitiste. On va être toujours joyeux dans le Seigneur. La joie, la paix que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Et on le sait, je l'ai dit, ça fait quelques semaines qu'on le répète dans travers les messages, ce n'est pas la paix qui vient du monde. Une paix futile, une paix hypocrite. Ou les traités de paix, on les déchire quand ça ne fait pas notre affaire. La paix, elle vient d'en haut. On en a parlé à Noël. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Pas juste à sa ressemblance, et à son image. À son image et à sa ressemblance. Voilà pourquoi lorsque Christ est mort sur la croix, voilà pourquoi lorsqu'il est ressuscité. Voilà pourquoi quand on est né de nouveau, ce qu'il veut rétablir, c'est cette ressemblance qu'on a perdue avec le premier Adam. Voilà pourquoi dans Romains chapitre 28, 28 et 29, Dieu, son mandat, c'est de nous amener à ressembler à l'image qu'Adam a perdue dans le jardin, celui de Jésus-Christ. Si vous ne croyez pas en cela, c'est le secret de la vie chrétienne. Si vous ne croyez pas en cela, vous allez être un chrétien défaitiste à la moindre chose qui ne fera pas votre affaire. Le dernier Adam est venu racheter ce que le premier a perdu, ce que le premier a cédé entre les mains du malin. Et c'est par grâce que Dieu nous accorde ça à partir de Genèse chapitre 3. Pour la première fois, il y a une prophétie concernant la venue de Jésus-Christ dans Romains chapitre 3. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Il l'a créé dans une harmonie, une innocence parfaite. Et il l'a placé dans un environnement parfait. On ne peut pas s'imaginer ce que le jardin d'Éden, à quoi pouvait ressembler le jardin d'Éden. Dieu avait donné l'autorité à l'homme de dominer sur toute sa création et il lui avait présenté une compagne parfaite, une femme qui s'appelle Ève. Ce n'est pas toujours l'opinion de tout le monde, mais c'est autant pour l'homme que pour la femme. Hein? C'est le péché qui est venu tout entacher ça. Mais tout était parfait dans le jardin d'Éden. Tout était parfait. Adam et Ève vivaient une relation de rêve, une relation dont nous rêvons de connaître. C'est-à-dire une existence où la souffrance, la maladie, la douleur et la mort n'existent pas. Chaque besoin qu'il rencontre est éprouvé, est rencontré, et il profite d'une communion ininterrompue avec Dieu. C'est extraordinaire, on ne peut pas s'imaginer. Maintenant, rappelez-vous, dans la Nouvelle Terre, ce que Adam a perdu dans le jardin, c'est ce qu'on va retrouver, frères et sœurs. C'est ce qu'on va retrouver sur cette Nouvelle Terre et ces nouveaux cieux. Et c'est notre espérance. Et j'espère que c'est l'espérance de tous ici ce matin. La seule chose que Dieu va demander à Adam, c'est de ne pas manger de l'arbre qui donne de la connaissance du bien et du mal et qui se trouve dans le jardin d'Éden, parce qu'il dit à Adam, le jour où tu en mangeras du son fruit, tu mourras certainement. Tu mourras certainement. Pendant une période indéfinie, Les choses se passent bien dans le jardin jusqu'au jour où Ève se trouve confrontée avec un serpent qui est Satan. Et ce serpent lui dit que Dieu leur a caché quelque chose quand il leur a demandé de ne pas manger de l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal. Parce que Dieu sait que lorsqu'ils mangeront de ce fruit, nous l'avons lu tantôt ici au verset, j'ai perdu mon verset. Au chapitre 3, donc dans les deux premiers versets, alors il lui dit, il sait que Dieu sait que vous deviendrez comme lui. Ève va succomber à la tentation, elle va manger du fruit de cet arbre, et elle va en donner aussi à Adam qui était auprès d'elle. Et Adam, la parole nous dit qu'Adam en mangea aussi. En un instant, ils vont prendre conscience que tout a changé. Et quand on est né de nouveau, frères et sœurs, à partir du moment où on commet un seul péché, en un instant, c'est quelque chose qui a changé dans nos vies. Amen. En un instant, quand on est né de nouveau, là, et qu'on commet un péché, en un instant, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans nos vies. On sait qu'il y a un ombrage qui est venu se mettre devant le Seigneur Jésus-Christ et qui nous empêche d'avoir cette pleine communion avec lui. Vous imaginez Adam et Ève comment ils ont ressenti les choses. En un instant, ils ont pris conscience que tout a changé. Ils ne sont plus innocents et purs, mais ils sont devenus des pécheurs, c'est-à-dire des êtres déchus. Pour la première fois, ils s'aperçoivent qu'ils sont nus. Et ils en ont honte, au point où ils vont commencer à se confectionner avec des feuilles de figuier, une sorte de tablier pour se cacher. Et au milieu de cette tragédie, Dieu apparaît dans le jardin. Avez-vous remarqué une chose à partir du moment où l'homme pêche? C'est pas l'homme qui est à la recherche de Dieu, c'est Dieu qui est à la recherche de sa créature, c'est Dieu qui va au-devant de sa créature. Et non pas pour le condamner, pour lui donner l'occasion de confesser son péché. Quel Dieu de grâce! Et c'est la même chose aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, c'est coincé avec un péché qui est en train de t'étouffer. Rappelle-toi que Dieu te cherche ce matin. Et que Dieu veut simplement que tu confesses ton péché pour rétablir ta communion avec ton Créateur, avec ton Sauveur Jésus-Christ. Dieu n'a pas changé. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Dieu de qui on parle ce matin, c'est le même Dieu qui était dans le Jardin d'Éden avec Adam et Ève. Et c'est ce Dieu qui est en cours à la recherche des pécheurs pour les amener à confesser leurs péchés et les ajouter à son Église, les ajouter à son royaume. Amen. Et qu'est-ce que le verset 8 nous dit? Et lorsqu'ils ont entendu sa voix, ils se sont cachés loin de lui. Dieu sait très bien, pourtant Dieu sait très bien ce qu'ils ont fait, c'est ce que le texte biblique nous dit. Et ils cherchent à faire en sorte qu'Adam et Ève confessent leurs péchés. Alors, vous savez ce qui est intéressant? Il y a une partie qui va commencer ici. Et c'est une partie de blâme. Ouais. Adam va blâmer sa femme. Non seulement sa femme, mais Dieu. Seigneur, si tu ne m'avais pas donné cette femme, je serais toujours en communion avec toi. Hein? Et la femme, elle va montrer qu'elle est aussi intelligente que son homme, que son mari pour se sortir du pétrin. Elle va dire, c'est pas de ma faute, c'est le serpent qui m'a séduit. Ça veut dire quoi? Ben, Seigneur, si tu n'avais pas créé le serpent, je ne serais jamais tombé. Fait que finalement, l'idiot dans l'histoire, c'est qui? C'est de ta faute, Dieu, hein? Adam, il dit, c'est de ta faute, si tu ne m'avais pas donné la femme, je ne serais pas tombé. Puis la femme a dit, si tu ne m'avais pas donné le serpent, je ne serais pas tombé. Fait que c'est de ta faute, Dieu. Et on est comme ça, hein? Les pécheurs sont comme ça. Ouais. Moi, je me souviens, on était 8 enfants à la maison. Donc, je me souviens qu'on était 8, hein? Et les parents, des fois, ils ne partaient pas souvent, les parents. Ils ne pouvaient pas nous laisser tout seuls. Surtout moi, hein? Juste moi tout seul, ça prenait un surveillant. Hein? Mais à la maison, on se bagarrait, hein, pour le plaisir. Et quand les parents étaient partis 5-10 minutes, ça arrivait qu'à se bagarrer, à se pousser tout ça, on accrochait un bibelot, puis pouf, hein. Et là, la mère, elle rentrait, puis elle voyait les êtres là, hein. Qui a fait ça? C'est pas moi, c'est lui. Elle allait voir le deuxième, c'est pas moi, c'est l'autre. Elle était incapable de trouver qui avait brisé, hein. Il fallait faire une enquête incroyable, hein. Moi, j'appelle ça le syndrome d'Adam. On a hérité du péché avec Adam et on est venu au monde avec le péché qui habite en nous et c'est jamais de notre faute. C'est jamais de notre faute. Et combien la tentation est forte aussi en Christ quand il nous arrive un pépin de dire c'est jamais de notre faute. C'est jamais de notre faute. Ouais. C'était pas de sa faute s'il est monté sur la croix, frères et sœurs. Et heureusement qu'il n'a jamais prononcé cette phrase. Ce n'est pas de ma faute si je suis sur la croix. Heureusement qu'il ne l'a pas fait. Il a plutôt dit, je prends ta place, je prends ta condamnation, je subis l'enfer pour toi. Ouais. Et en tant que chrétien, on doit assumer nos responsabilités. Quand on commet un péché, c'est pas la faute du diable, c'est pas la faute de mon frère, c'est pas la faute de ma sœur, c'est ma faute parce qu'en Jésus-Christ, j'ai la capacité de dire non au péché. Quand je dis oui au péché, quand je succombe à la tentation, c'est parce que de mes propres forces, de ma propre volonté, j'ai dit oui au péché. C'est pas la faute de personne d'autre que moi. C'est terminé le premier Adam, ça. Je me suis dépouillé du premier Adam pour revêtir Jésus-Christ. Et Jésus-Christ n'a jamais, jamais, jamais abandonner ses responsabilités. C'est la même chose pour nous, frères et sœurs. Et en 2016, qu'on puisse marcher dans cette victoire que Christ remporta à la croix, que Christ remporta à la résurrection, le jour lorsqu'il est revenu de la mort à la vie. Et on voit que les versets 12 et 13, Dieu va immédiatement prononcer un jugement sur Adam, sur Ève et sur leur serpent, et il va les chasser du jardin d'Éden. Pourtant, au milieu de cette tragédie, une lueur d'espoir apparaît. Le verset 15 nous montre jusqu'à quel point Dieu est un Dieu de grâce. Pour la première fois, nous avons à l'état embryonnaire l'évangile du salut par grâce qui est annoncé. Pour la première fois, nous avons un aperçu de l'évangile de l'agneau de Dieu qui donnera sa vie sur la croix à Golgotha pour racheter un monde perdu, pour vous racheter vous, pour me racheter moi. Et nous pouvons voir ici le premier d'une liste de passages à travers toute la Bible qui nous parlera de la venue de l'agneau de Dieu et du sacrifice qu'il accomplira pour les pécheurs. Ce verset nous dévoile pour la première fois la première promesse que Dieu fait dans sa parole concernant la venue de l'agneau. Et j'aimerais prendre quelques minutes pour examiner ce passage qui révèle certaines promesses importantes concernant l'agneau qui apparaîtra un jour sur la terre. On n'aura pas le temps de tout voir toutes les promesses parce que je voudrais terminer avec une note très réjouissante par rapport dans Colossiens chapitre 3. Les versets 11, 12, 13, 14, 15, 16. J'aimerais qu'on regarde ça ensemble parce que c'est vraiment des versets qui nous encouragent à travers ce que Christ a accompli, les conséquences pour nous, les conséquences bénéfiques que la venue de Christ nous a apportées et qu'on puisse vivre, qu'on puisse passer l'année 2016 finalement dans la victoire que Jésus a remportée sur la croix. Amen. Cet agneau est unique quant à son origine, verset 15. Nous apprenons que celui qui vient sera de la semence de la femme. Et c'est une affirmation étrange que Dieu fait ici, puisqu'en principe, la semence provient de l'homme et non de la femme. Et nous apprenons que la femme produira une progéniture sans l'aide de l'homme. Et ce verset nous donne le premier indice d'une grande vérité qui nous sera révélée tout au long de la Bible. C'est la première prophétie annonçant la naissance virginale de Jésus-Christ. Satan ne l'a probablement pas compris. Adam et Ève ont probablement pas compris la première prophétie, mais Dieu révélait qu'agneau sortirait un jour du ventre d'une femme, et ce sans la participation d'un homme. Toutes sortes de raisons, moi je peux vous donner la mienne, c'est que si on avait utilisé la semence de Joseph qui est entachée par le péché, le Seigneur Jésus serait venu au monde avec le péché en lui, donc c'est par l'œuvre et la puissance du Saint-Esprit que le Seigneur vient dans le ventre de Marie et finalement apparaît dans ce monde. Ce n'est pas hérétique ce que je dis, on peut avoir toutes sortes d'explications. Moi, c'est la mienne et je pense qu'elle est aussi valable que les autres. Mais en tout cas, une chose de sûre, c'est que ce passage, pour la première fois, nous rappelle, nous annonce que Jésus viendrait, ce serait une naissance virginale de Jésus-Christ. Évidemment, nous savons comment Jésus est venu au monde, puisque Isaïe l'a prophétisé dans Isaïe chapitre 7, verset 14, et que l'ange Gabriel l'a annoncé à Marie dans Luc et à Joseph dans Matthieu. Pourquoi est-ce si important pour nous? Parce que la Bible souligne clairement ce péché lorsqu'elle dit que c'est par un seul homme que le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes, parce que tous ont péché. Quiconque est venu au monde à travers l'union sexuelle d'un homme et d'une femme vient au monde avec le péché habitant en lui. Et le monde entier est depuis soumis à la puissance du péché, nous dit la parole. Et cela fait partie de l'héritage que le premier Adam nous a laissé. Cependant, la naissance de Jésus fut très, très différente. Il est venu dans ce monde sans l'aide d'un père humain. Étant sans péché, Dieu l'a fait devenir, ou Dieu l'a chargé de notre péché afin que par lui, nous puissions bénéficier de l'œuvre par laquelle Dieu nous rend juste à ses yeux. Amen. Oui. Ce qui rend la naissance de Jésus particulièrement unique, C'est le fait que ce n'était pas un bébé ordinaire, c'est Dieu fait homme. C'est pas une naissance ordinaire, c'est Dieu fait homme. Dieu qui s'humilie, Dieu qui s'abaisse, qui vient prendre la forme d'un homme en Jésus-Christ et qui va prendre sur lui vos péchés, mes péchés, pour que nous puissions être rendus justes devant Dieu. Maintenant, ça se fait pas automatiquement, c'est un cadeau que Dieu nous offre et l'homme et la femme doivent dire oui à ce cadeau. C'est pas automatique. Il faut dire oui à ce cadeau. Cet agneau est unique par ce à quoi il est appelé. Il est venu dans le monde pour vaincre les forces du mal. Il est écrit au verset 15 qu'il est venu pour écraser la tête du serpent, faisant ici référence à une blessure fatale. Et cet agneau n'était pas venu dans le monde pour montrer à l'homme une meilleure façon de vivre, ni pour faire en sorte d'améliorer le sort de l'homme. Il était venu dans le monde pour parler de la vérité, chercher et sauver ceux qui étaient perdus, et détruit par sa mort le diable qui détenait la puissance de la mort. Cet agneau viendrait libérer l'humanité du péché dans lequel Adam venait juste de tomber. Et beaucoup d'hommes, à travers les siècles, beaucoup d'hommes vont lutter contre le malin. Mais cet agneau envoyé par Dieu lui porterait le coup fatal. Il est venu accomplir pour l'homme ce qu'il n'aurait jamais pu faire par lui-même. Il est venu pour le libérer de l'esclavage du péché et le sauver du péché. Frères et sœurs, je ne m'emporterai pas ce matin, il y a assez des mercredis des fois où on parle fort. Mais si on ne saisit pas qu'à la croix on a été libéré de l'esclavage du péché, on va continuer à vivre comme les gens du monde, avec les mêmes défaites que les gens du monde connaissent face au péché. Et un jour, on finira presque par regretter d'être chrétien. Parce qu'on ne trouve pas de plaisir dans notre vie chrétienne. À la croix, la parole et l'éclair, j'ai été libéré de l'esclavage du péché. Si je suis né de nouveau, si je suis mort en Christ, si je suis ressuscité en Christ, je suis libéré de la puissance que le péché exerçait dans ma vie. C'est un des miracles, entre autres, qui se rencontre à la croix. C'est vraiment important. C'est pour ça que je vous dis que quand le chrétien pêche, il ne peut pas dire « c'est la faute du diable, c'est la faute de mon frère, c'est la faute de ma sœur. » C'est ta faute. Et c'est ta faute parce que tu as trouvé encore un certain plaisir au péché, mais tu as oublié la conséquence, comme Ève, comme Adam. Tu as revêtu ton vieux manteau du premier Adam et tu as mis celui du deuxième Adam, du dernier Adam de côté. Eh bien, tu agis comme le premier. Verset 15, la première partie, le Seigneur vient pour combattre le malin. Le mot inimitié que nous retrouvons au verset 15 signifie une hostilité, une haine envers. Et cela fait penser à la haine naturelle. On va continuer. Le mot inimitié, ça fait référence à la haine que Satan éprouve envers le Seigneur et envers tout ce que le Seigneur aime. Ce mot inimitié se réfère à ce qui habite dans le cœur du diable et qui l'a poussé à s'attaquer à Adam et Ève dans le jardin d'Éden pour les amener à commettre péché. C'est une haine qui désire rien de moins que de détruire le Seigneur et de renverser son royaume. Mes frères et sœurs, on a besoin de se rappeler une chose. Le diable déteste tout ce que Dieu aime, particulièrement vous. Parce que vous êtes les seuls parmi ce que Dieu a créé, en dehors des anges. Mais sur toute la terre, nous sommes les seuls qui sommes appelés à passer l'éternité avec lui. Et si le diable peut empêcher quiconque de participer à ce règne éternel, ils vont utiliser tous les moyens possibles pour le faire. Frères et sœurs, on n'est pas en paix, on est en guerre. On est en guerre avec un autre royaume. Mais la victoire a déjà été remportée. Je n'ai pas à dire, j'ai eu la victoire, non. On doit rentrer dans la victoire que Jésus a accomplie pour nous. Vous n'obtiendrez jamais la victoire sur quoi que ce soit. Parce que c'est dans votre chair, vous devez entrer dans la victoire que Christ remportait à la croix sur le péché pour vous. Et on doit vivre dans ça. Mais pas dire, je suis quelqu'un de capable, je suis rendu mature en tant que chrétien, moi je ne pécherai plus, moi c'est terminé ça, puis on va se ramasser à plat ventre, chaos. Je marche dans la victoire, c'est ce que Paul dit dans Colossiens, hein? Je marche dans la victoire que Christ remportait à la croix. Je n'invente rien ce matin, hein? Il est écrit que celui qui viendrait dans ce monde livrerait une guerre avec un ennemi déterminé. Il reprendrait le combat qu'Adam avait perdu dans le Jardin d'Éden. Il viendrait pour combattre Satan. Et c'est exactement ce que Jésus a fait. À partir du moment où cette prophétie a été annoncée dans Genèse 15, Satan va faire tout en son pouvoir pour empêcher la semence de la femme de naître et d'accomplir sa mission. Il a agi à travers Caïn pour tuer Abel. Il a essayé de faire disparaître le peuple d'Israël, Exode chapitre 1, verset 2, et ainsi de suite. Et quand Jésus est né, Satan a essayé de le faire mourir alors qu'il n'était qu'un bébé. Alors que Jésus est conduit dans le désert par le Saint-Esprit, Satan va essayer de l'amener à pécher. Il va essayer d'amener Jésus à réclamer sa couronne sans passer par la croix, dans Jean chapitre 6. Il a sûrement pensé qu'il avait remporté la victoire lorsque Jésus est mort sur la croix, mais ce que Satan n'avait pas réalisé, c'est que la plus grande salve tirée à partir du ciel fut le moment où Jésus est devenu péché pour nous et qu'il est mort à notre place. Amen. 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 Comment peut-on parler de victoire? Et là, je rentre dans la deuxième partie de mon message. Comment peut-on entrer dans la parler de victoire en voyant Jésus mourant sur la croix? Combien de chrétiens, quand lorsqu'ils regardent la croix, ont l'impression que c'est une défaite pour le Seigneur Jésus-Christ? Combien il y a de chrétiens qui pensent que c'est une défaite alors que c'est une victoire? Frères et sœurs, c'est vrai que c'est difficile de penser en regardant ce qui se passe à la croix que c'est une victoire que Jésus a remportée sur la croix. Il a été rejeté par son peuple, trahi par un des siens, abandonné par ses disciples, mis à mort par celui qui représentait l'autorité à son époque. Les bras écartés, cloués, attachés, privés de toute liberté, à la merci de ses bourreaux. Isaïe nous dit qu'il ressemblait à rien, tellement qu'il était défiguré, tellement que son dos était lacéré. C'était un morceau de viande, finalement, en bon français, hein. C'est tout ce qui traînait sur la croix, un morceau de viande aux yeux du monde. Et c'est vrai que ça ressemble à une défaite. S'il y a une victoire apparente, frères et sœurs, à la croix, c'est celle de la brutalité, de l'orgueil, de la haine et de la jalousie. Et pourtant, la réalité est tout autre que celle qui paraît. Parce qu'à la croix, frères et sœurs, c'est la défaite du mal. Le mal, il est vaincu. C'est la victoire sur le péché, sur la mort, sur le diable et sur toutes les puissances du mal. Est-ce que vous êtes amen à ça? Amen. Ah oui, si la croix, frères et sœurs, elle se limite simplement pour vous à recevoir le pardon de vos péchés, vous êtes 15, vous allez vous faire renverser jour après jour. Lorsqu'il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, donnez-moi votre fardeau. » Il y a un échange qui se fait à la croix. Quand on est colérique, quand on ne se maîtrise pas, c'est pas un fruit de l'esprit, ça, hein? En tout cas, je ne pense pas. On vient à la croix et on le confesse. « Seigneur, je prends un témoignage tellement que je suis colérique, tellement que je pète un câble pour tout et pour rien. » Le Seigneur, il dit « Écoute, donne-moi, je vais te donner une portion de mon amour en retour. » Ouais. Et je vais te montrer à travers les expériences que tu vas vivre, que ce fruit de la chair que tu as voulu te débarrasser, que tu as voulu me donner, je vais le remplacer par un fruit de l'esprit. Mais pour être capable d'aller chercher ce fruit de l'esprit, frères et sœurs, c'est pas juste d'apprendre le verset par cœur. C'est dans la pratique qu'on va aller le chercher. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand on demande au Seigneur, après, donne-moi de la patience. Apparemment, il y a beaucoup d'épreuves qui arrivent quand on demande de la patience au Seigneur. Et c'est ce que Jésus veut faire. Il y a un échange à la croix. Le pécheur vient à la croix, confesse son péché et repart en faisant partie des élus. Il y a un échange qui se passe à la croix. Celui qui est sans péché prend sur lui ton péché et en retour, tu retournes justifié devant Dieu. Il y a un échange toujours à la croix, toujours, toujours. On ne se présente pas à la croix, on ne perd pas notre temps quand on vient rencontrer le Seigneur Jésus à la croix. Alors, on ne répétera pas, mais dans un premier temps, on a vu que la victoire avait déjà été annoncée dans le Jardin d'Éden, dans une prophétie que Dieu avait annoncée, que le Messie écraserait la tête du serpent. Et de nombreux textes de l'Ancien Testament parlent du royaume de Dieu qui est à venir. Daniel chapitre 7, la domination reposera sur ses épaules. Isaïe chapitre 9, verset 6, aucun livre de l'Ancien Testament n'accepte la situation telle qu'elle est. Il annonce la défaite finalement du mal. Deuxièmement, la victoire va débuter dans le ministère de Jésus-Christ. Satan, en voyant venir Jésus, va essayer de s'en débarrasser, comme j'ai dit tantôt. Il va même inspirer Hérode pour tuer Jésus. Jésus va le vaincre dans la triple tentation au désert. Il va remporter la victoire sur la foule qui voulait faire de lui un roi politicien et un militaire. Pour lui, le règne de Dieu s'est le règne de Dieu s'est approché de sa génération. Les démons fuyaient, les maladies quittaient les pauvres gens. C'est la victoire de Jésus sur le mal. Lorsque Jean-Baptiste dit à ses disciples, demande-lui donc si c'est celui à qui on s'attendait, celui qui devait venir. Et il dit à Jean-Baptiste, que les aveugles voient, que les sourds entendent, que les boiteux marchent. La victoire sur le mal. Dans Luc chapitre 11, verset 21, Jésus dit, lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sécurité. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Jésus annonce la libération des esclaves dans Luc chapitre 11, verset 21. Troisièmement, la victoire remportée à la croix. Plusieurs fois, Jésus a désigné le diable comme prince de ce monde. Il a dit qu'il serait jugé et jeté dehors et c'est par sa mort qu'il a pu le faire, frères et sœurs. Détruire celui qui détenait le pouvoir sur la mort. Le diable détient le pouvoir sur la mort pour chaque être humain parce qu'on est tous pécheurs. Il y en a un seul qui n'a jamais péché. Le diable ne pouvait pas le toucher. Le diable n'avait aucune autorité sur lui. Parce qu'il a résisté à toutes les tentations que le diable a placées sur sa route. Il est venu au monde sans péché comme Adam et Ève. Adam et Ève ont choisi de dire oui au péché. Jésus a choisi de dire non au péché. 100% Dieu, 100% homme. Mais il remporte cette victoire sur le malin parce qu'il n'avait jamais péché, parce qu'il n'a jamais péché. Satan était vaincu et les puissances des ténèbres mises en déroute. Jésus, Colossiens chapitre 2, verset 15, Jésus a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui dit, je voulais l'avoir, mais je n'ai pas été capable de l'avoir. Ouais. Non. La mort ne pouvait pas le garder. Parce qu'il n'avait pas les qualifications pour rester, pour mourir et rester dans la tombe. Il était sans péché. Satan n'avait aucune autorité sur lui. Dans Colossiens chapitre 2, verset 13. Tournez dans Colossiens, chapitre 2. On va rester dans Colossiens là, jusqu'à la fin. Je ne sais pas quelle heure il est. Bon. Dans Colossiens, chapitre 2, verset 13, Paul parle de deux aspects de l'œuvre du salut de Jésus. Il parle premièrement du pardon des péchés. Autrefois, nous qui étions spirituellement morts à cause de nos péchés, Dieu nous a fait revivre avec le Christ. Dieu nous a fait revivre spirituellement avec le Christ. Nouvelle naissance. Pour naître de nouveau, il faut d'abord mourir. Paul dit, autrefois, nous qui étions spirituellement morts à cause de nos péchés, un peu plus loin, il dit, Dieu nous a fait revivre avec le Christ en nous pardonnant tous nos péchés. Il nous a fait grâce pour toutes nos offenses. 13. Colossiens 2, 13. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs. Il a dépouillé. Il leur a enlevé toute puissance. C'est un triomphe total sur les puissances des ténèbres. Concernant le pardon, Paul fait allusion au maître, verset 14. Paul fait allusion au maître qui annule la dette de son débiteur. Un acte était rédigé contre nous, c'est un document écrit à la main, reconnaissance de dette qui se dressait perpétuellement contre nous. Et cette dette, frères et sœurs, c'était la liste de nos péchés. Dieu a résolu le problème. Il a annulé, il a effacé, il a cloué à la croix. Verset 14. C'est terminé. Peut-être s'agissait de cette pancarte Titilius, clouée sur le sommet de la croix du crucifié à l'époque, sur laquelle on inscrivait les crimes du crucifié. Et dans le cas de Jésus, l'acte décrivait non ses péchés, mais les nôtres. Et il a pris sur lui le document qui nous accusait, dit l'apôtre Paul. Il l'a pris sur lui. C'est pour ça que j'aime bien l'exemple des péchés. Ah oui, hein? Le document qui vous accusait, la liste de vos péchés, ce que vous avez fait comme péché durant toute votre vie. Si vous mourrez, vous comparaissez devant Dieu, c'est avec cette liste-là que vous allez comparaître. Christ, il était sans péché. Qu'est-ce qu'il a fait à la croix? Le document qui nous accusait, contenant la liste de tous nos péchés, Christ l'a pris sur lui. Qu'est-ce qui arrive quand je comparais devant Dieu? Parce que j'ai accepté qu'il ait pris mes péchés, Dieu me donne la justice de Jésus qui était sans péché. Et Dieu me voit à travers le sang de Jésus comme étant sans péché. Mais lui, il a subi la condamnation que je méritais. Il a subi le châtiment que je méritais. Il a subi l'enfer que je méritais à cause, pas de ses péchés, à cause de mes péchés. Et moi, par grâce, je suis pardonné, je suis libéré. Et Dieu veut m'amener à ressembler à la personne de Jésus le temps qu'il me reste sur la terre pour se glorifier, pour manifester sa puissance à travers ses enfants. Après les péchés, Paul dit que Dieu a dépouillé les puissances du mal, verset 15. C'est ainsi que Dieu a dépouillé ou désarmé les autorités pouvoirs spirituels et les a donnés publiquement en spectacle en les amenant comme prisonniers dans le cortège de victoire de son Fils. Dieu les a désarmés. Dieu les a ensuite destitués pour les livrer publiquement en spectacle. Autrement dit, il les a présentés officiellement à la vue de tous comme des puissances désarmées, et elles le sont désormais, frères et sœurs. Frères et sœurs, est-ce que vous savez en Jésus-Christ, est-ce que vous savez en Jésus-Christ la puissance qui est vôtre? Je ne dis pas, est-ce que vous savez la puissance que vous avez? Je vous dis, est-ce que vous savez en Jésus-Christ, que vous réalisez en Jésus-Christ la puissance que vous avez? Voilà pourquoi je disais au début de mon message que les chrétiens du premier siècle, qui étaient la génération qui ont vu Jésus-Christ être ressuscité, voilà pourquoi ils parlaient de victoire, ils parlaient d'être vainqueur, et ils pouvaient toutes choses en celui qui avait remporté la victoire et ainsi de suite. Et frères et sœurs, c'est une question de foi. Hein? C'est simplement une question de foi. Le juste vivra par la foi. Et on doit entrer dans ce cortège de victoire de Jésus-Christ. Un prédicateur déclara, Christ dépouille ses ennemis de leurs armes, de leurs insignes et de leurs vêtements, puis il les fait défiler comme des captifs, après quoi il les traîne derrière son char triomphal. Quatrièmement, la victoire est confirmée et proclamée par la résurrection. Il ne faut pas dire, encore une fois, je le répète, que la croix est une défaite. La résurrection, la victoire, la croix, c'est la victoire remportée. Et la résurrection, eh bien, la victoire reconnue, annoncée et démontrée. Désormais, les puissances du mal, les puissances mauvaises qui ont été dépouillées de leurs âmes, ont été dépouillées de leurs âmes et de leur dignité. Ils sont maintenant placés sous ses pieds et lui sont soumises, frères et sœurs. Voilà pourquoi le malin ne peut pas nous faire tout ce qu'il veut. Et frères et sœurs, quand le malin fait quelque chose sur nous, c'est parce qu'on lui a donné l'autorité de le faire. Le malin n'a plus aucun pouvoir sur vous, ni sur moi. Est-ce que c'est une réalité dans vos vies? Oui. Le seul pouvoir qu'il a, c'est celui qu'on lui donne. C'est bien celui qu'on veut lui donner. Les gens du monde, ils sont manipulés. Les gens du monde, ils sont esclaves, sans s'en rendre compte. Parce qu'ils ont pour père le diable, dit Jésus. Parce qu'il est le prince de ce monde. Mes frères et sœurs, on a le prince de la paix, on a le prince de la vie, on a celui qui peut tout, on peut tout en Jésus-Christ. Cinquièmement, la victoire s'étend au fur et à mesure que par la puissance de l'Esprit, l'Église élargit son champ d'action. Si quelqu'un croit en Christ, il est gracié pour tous ses péchés, mais aussi il passe des ténèbres à la lumière et du pouvoir de Satan à Dieu, du pouvoir de Satan à Dieu. Il est dit, Colossiens chapitre 1, verset 13, c'est pas moi qui le dis, c'est Paul. Il est délivré du pouvoir des ténèbres et transporté dans le royaume du Fils de son amour. Pas quand il est mort, maintenant. Frères et sœurs, on change de père, on change de prince, on change de royaume, on change d'espérance. Amen. Dans chaque conversion, il y a une confrontation de puissance. Le diable veut retenir l'âme du perdu, Christ veut la sauver. Il reste à l'homme de crier vers lui, sachant que quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Frères et sœurs, vous savez qu'on serait, beaucoup plus conscients de la bataille, de la guerre spirituelle qui se passe dans la tête de nos enfants, si on pouvait rentrer simplement dans cette dimension des anges élus, des anges déchus, et que quand il y a l'évangile qui est prêché, quand il y a un appel qui est fait, tout ce qui se passe là à l'extérieur où on voit rien, la pression spirituelle qui se fait sur vos enfants, qui se fait sur les perdus, l'ange déchu qui vient chuchoter dans l'oreille de ton fils que regarde tout ce que tu vois perdre, profite de ta vie, puis t'es encore jeune, et l'Esprit qui essaie de convaincre, l'Esprit Saint qui essaie de convaincre, de péché, de justice et de jugement. Ce combat. Je ne sais pas si vous l'avez entendu quand vous êtes converti. Moi, j'ai très bien entendu cette voix-là. Hein? Ouais. Ouais. Moi, je faisais du noir, j'étais en commerce. Hein? Ouais. Tout de suite, hein? J'ai levé ma main, c'est facile de lever la main, hein? Mais. Ouais. C'est avancé. Ouais. J'avais levé ma main. Et quand le prédicateur a dit maintenant, ceux qui ont levé la main, venir en avant, on va prier ensemble. Une petite voix qui me disait, pense à tout ce que tu vas perdre si tu avances. Ouais. Je peux dire que je me suis avancé et Dieu m'a béni 10 fois en vivant dans la légalité, 10 fois plus que je pouvais toucher avant. Ouais. Il ne me disait pas ce que je gagnerais par contre. Hein? Ah ouais. Frères et sœurs, on a tout à perdre à désobéir au Seigneur. On a tout à gagner à marcher dans ses voies. Jésus sur le trône, assis à la droite de Dieu. Mais il attend que ses ennemis soient devenus son marchepied, nous dit la parole. Ce jour-là, tous les hommes se mettront à genoux devant lui. Toute langue confessera qu'il est Seigneur. Quant au diable, Apocalypse chapitre 20, 10, il sera jeté dans les temps de feu et de soufre où il sera tourmenté jour et nuit. Frères et sœurs, ça c'est l'image de l'enfer pour l'éternité. Ceux qui meurent sans Christ, ils s'en vont dans le royaume, dans le séjour des morts en attente du jugement dernier. Et au jugement dernier, ils seront pris et envoyés dans les temps de feu avec le diable et ses anges. Ouais. Et moi, pour moi, en tout cas, je vois que le Seigneur veut sauver tous les hommes parce que l'enfer, le Seigneur est clair, ça n'a pas été créé pour les hommes. L'enfer a été créé pour le diable et ses anges, nous dit la parole. Ouais. Donc, le cœur de Dieu, c'est de sauver tous les hommes. C'est que tous viennent à la repentance. Malheureusement, on sait très bien que ce n'est pas tous les hommes qui vont être sauvés. Mais la fin, elle est horrible. Et on ne doit pas cacher aux gens la fin qui les attend. Arrêtons de vendre la salade évangélique à bon marché. Disons, on n'est pas là pour les juger, les condamner, mais on est là pour dire la vérité. J'ai parlé du petit Jésus dimanche. Hein? Pas dimanche, mais vendredi. Hein? J'ai parlé du petit Jésus en avant. Petit Jésus, en dessous d'un sapin, il ne dérange pas personne. Hein? Il ne prêche pas l'Évangile de Jésus. Et presque la grande majorité des foyers du monde, disons, ils laissent rentrer le petit Jésus hein, dans la maison. Hein. Ouais. Il dit rien. Ouais. Il pleure quand il a soif, puis il pleure quand il a fait quelque chose dans sa couche. Hein. Ouais. Ça, c'est le petit Jésus. Hein. Il ne fait pas peur à personne, le petit Jésus. Hein. Ouais. Mais quand il commence à grandir, quand il commence à ouvrir la bouche, quand il dit « Je suis venu pour proclamer la vérité », à celui-là, il reste dehors, hein. Celui-là, le monde n'en veut pas. Hein? Non. Hein? La seule place qu'ils ont trouvée pour le recevoir. Ouais. Mais celui-là, ici. Ah, oh, allez! Hein? Les bergers, un âne, un bœuf. Allez, Jésus, viens! Ouais. Pour la période des fêtes, hein? Pour décembre. Hein? On l'accepte. Ouais. L'image qui m'est venue en voyant tout ce monde-là vendredi dans la salle, c'est... Il y a combien de chrétiens aussi qui laissent entrer Jésus dans leur cœur, ce Jésus qui est mort pour eux uniquement pendant le mois de décembre, et que les 11 autres mois de l'année, ils vivent comme bon leur semble. Quand le mois de décembre est fini, Jésus va prendre ta place sur la croix. Et que durant l'année, vous les rencontrez, sont abattus, sont défaits, aucune espérance, aucune joie. Ils sont déprimés. Ils ont même hâte de mourir. Et ils ne sont pas capables de vous dire, par contre, que la mort est un gain pour eux. Non, parce que quand vous le grattez un peu, ils n'ont pas la certitude de savoir où ils s'en vont. 12 mois par année, le Seigneur Jésus demande et exige de régner dans nos vies. Parce qu'il dit qu'il en a payé le prix. Le prix est élevé. Et que ce qu'il promet, il va l'accomplir. Lui qui était sans péché, Dieu l'a chargé de notre péché, afin que par lui, nous puissions bénéficier de l'œuvre à laquelle Dieu nous rend juste à ses yeux. Lorsque le fils prodigue est retourné à la maison, il fut revêtu de la plus belle robe, celle du Père. Apportez-moi la plus belle robe dans la maison, c'est laquelle? C'est celle du Père. Sa souillure fut recouverte et on aurait pu le prendre lui-même pour le Père. Et frères et sœurs, on parle du manteau, on est revêtu d'un manteau blanc qui symbolise la pureté. Imaginez à quoi ressemblerait le monde aujourd'hui si Adam et Ève n'avaient pas péché. Mais ils l'ont fait et parce qu'ils ont péché, vous et moi, nous sommes nés dans ce monde avec un grave problème dans nos vies. Et je rends grâce à Dieu qu'il ait vu notre besoin et qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir sur cette croix comme étant l'agneau parfait. Dans le jardin d'Éden, Dieu a été le premier à offrir un sacrifice dans sa grâce. Il a un animal innocent a été tué. Un innocent a été tué aussi. Des siècles plus tard, pour vous et moi, pour des coupables. Et Dieu a dû tuer un animal innocent pour la première fois de leur vie. Adam et Ève voyaient du sang. Ils voyaient assister à un sacrifice. Et c'était pour les couvrir de leur nudité, de leur honte. Jean-Baptiste verra Jésus arriver et dira, voici l'agneau de Dieu, non pas qui couvre le péché du monde, mais qui efface le péché du monde. Dans d'autres versions, qui ôte le péché du monde. Il ne dit pas les péchés. Très important, ça, Il ne dit pas les péchés. Le péché, pas les péchés. Le péché est entré dans le monde par un seul homme. Voici l'agneau de Dieu qui efface le péché. Pas les péchés, le péché. Qui ôte le péché du monde, qui ôte la puissance que le péché a dans la vie des gens, ce qui les rend esclaves du diable. Ôte le péché, la puissance que le péché exerce dans nos vies. La délivrance sur le péché, la délivrance sur le diable, la délivrance sur le monde. Tout ça, frères et sœurs, c'est à la croix. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Frères et sœurs, et je termine avec ça, les premiers chrétiens n'étaient pas enclins au défaitisme. Amen! Oui, ils parlaient davantage de victoire. Est-ce qu'on a un beau chant de victoire pour terminer? Victoire, victoire, oui. Edwige, j'ai besoin de ton aide. Numéro? Numéro, Ernest? C'est le titre, ça. Plus que vainqueur? Je vais mettre mes lunettes. En haut, triomphons, chantons d'allégresse, c'est ça? Plus que vainqueur. Plus que vainqueur, toujours triompher. À celui qui vaincra, victoire, triomphe, vainqueur. Amen! On est plus que vainqueur par celui qui nous fortifie. Et en toute chose, on est plus que vainqueur. Romains chapitre 8, verset 37. Romains 8, 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour manifesté en Jésus-Christ par notre Sauveur. Amen. Son amour ne nous fera jamais, jamais défaut. Jamais, jamais. On va se lever, on va chanter ensemble ce cantique.